Il ne nous posons la question, et c'est ça, je crois, point de vue très important, on remet aujourd'hui en lumière tous les points de vue de l'interrogation, ce que les scolastiques dites de Liszt avaient complètement oublié. On s'intéressait surtout aux conclusions. Dans notre monde aujourd'hui, j'allais dire qu'on s'intéresse presque plus à l'interrogation qu'à la conclusion. Je crois qu'au plan philosophique, c'est un progrès. Parce que c'est une reprise de ce qui est absolument essentiel. Mais rebondir à cette parole que j'aime beaucoup, l'idéaliste n'interroge pas. Et au fond, la scolastique était tombée dans un système clos. Ce qui faisait que ceux qui voulaient des affirmations très massives étaient très heureux. Ça ne bougeait plus. C'était la philosophie pérenniste. Et naturellement, il y avait Dieu, après la scolastique. On avait vraiment quelque chose de précis, d'éternel, qui ont été la sauvegarde de tous les naufrages. Tandis qu'interroger, c'est vivre avec les réalités dans lesquelles nous sommes, qui sont toujours mouvantes, particulièrement d'aujourd'hui, puisque tout va très vite. L'interrogation, c'est l'intelligence qui est alertée par la réalité devant laquelle elle se trouve. Et la réalité la plus parfaite devant laquelle je me trouve, c'est l'homme, la femme. Et la dérange, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas oublier que la philosophie première ne quitte pas l'homme. Je suis toujours en face du pied de chaque méchant. À ce moment-là, vous voyez, je dis ça. En parallèle, il y a quelque chose d'analogue avec l'évangile de Saint Jean. Alors, je suis très sensible à ça. L'évangile de Jean, c'est les rencontres de Jésus avec l'homme. La Samaritaine, comme Nicodème, comme Jean-Baptiste, c'est les rencontres. Et je crois qu'il y a quelque chose de semblable dans l'interrogation. Tant qu'on ne rencontre pas une réalité en tant qu'elle est, l'intelligence n'est pas à l'état d'étonnement. Toute interrogation présuppose un étonnement, une admiration. Quand je suis un peu blasé, ça arrive. Le matin, lorsqu'on se fait tôt, aller au boulot, on ne fait aucune attention à ce qu'on rencontre. On est habitué de faire toujours le trajet. On a trouvé des raccourcis magiques, étonnants. Peu importe si c'est défendu ou pas défendu, il n'y a personne qui prend ça à cette heure-là. On est sûr de ne rencontrer aucun obstacle. C'est la seule chose qui intéresse. La rapidité avec laquelle on fait ce trajet. Et même on regarde, tiens, j'ai gagné une minute aujourd'hui. Au contraire, j'en ai perdu une, mais à cause de tel obstacle. C'est pas du tout à cause de quoi. C'est à cause de ces obstacles. On ne s'intéresse absolument plus à rien. Sauf si on a un accident. L'accident nous remet devant l'étonnement. C'est possible qu'on ait un accident et qu'on ait devant soi un objet plus fort, plus puissant, plus immobile que nous. Trouvons l'envers, c'est vrai quand on rencontre un chien qui dort sur la route. S'il n'est pas trop gros, ça va. C'est curieux. Alors il n'y a plus d'interrogation, si ce n'est la rapidité. Tandis que si on peut aller à pied, on a un peu le temps. On est attentif aux rencontres. alors que tu es habillé en lieu, en plus de ça, il y a un cas extraordinaire. C'est ça qui m'intéresse. Les grandes personnes nous traversent. Elles n'ont plus aucun étonnement en parlant. Voilà, elles ont fait tellement de choses. C'est l'étonnement qu'elles ont su vis-à-vis des grandes fêtes, des magasins, des grandes choses, un peu. On essaie d'éveiller, de réveiller. C'est l'étonnement du ciel, l'étonnement des étoiles. On ne les voit plus. L'étonnement de quelque chose.
Foncière. Après tout, c'est la chose essentielle d'exister.
véritable poème. Alors pardonne tout poème. Et si je pense poétiquement, je comprends très bien. Puisque c'est le poème départ de la communication. Donc, c'est ce qui va m'éveiller. Ce qui va m'éveiller à la limite. Donc, une certaine intuition. En réalité, il faudrait dire que c'est ce qui va éveiller en moi l'admiration par rapport à l'existant. Parce que je vois qu'il y a un rapport commun du chat à l'être, de moi à l'être. Il y a quelque chose de commun. Et en même temps, c'est tout à fait différent. Parce que le chat ne se pose pas la question qu'est-ce que c'est Kratisa ? Tandis que Kratisa se pose la question qu'est-ce que c'est que l'être au chat ? Et l'être au chat et l'être à moi. Et le petit chat me réveille en disant mais après tout, j'ai quelque chose de commun avec lui. Il y a un temps très différent. Je saisis donc une relation commune. Une sorte d'intuition de cette rôle, puisque toute intuition porte sur une relation. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intuition de l'être au sens propre. Il y a des émerveillements. De là, une interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Quelque chose qui est commun à toutes les réalités que je vois, que j'expérimente, et moi-même. Je suis apparenté à toutes ces réalités. Et en même temps, je suis totalement différent de toutes ces réalités. Dans où je suis seul. C'est pour ça que quelquefois, on n'aime pas beaucoup trop regarder l'enjeu que je suis. Et vous voyez ici, soulignons tout de suite, Descartes dit cogito ergo sum. Moi je dis, et Descartes est très conscient quand il dit ça. Il dit je tourne le dos à Aristote. Il est quand même conscient, il ne peut pas être conscient. Il attaque tout de suite Aristote. Nous disons nous, ceci est. Et évidemment, ceci implique un cogito, implique une interrogation. Mon cogito le plus vivant, c'est dans l'interrogation. C'est vrai que l'interrogation est toujours étonnante. Écoutez les enfants qui interrogent. Écoutez les enfants qui interrogent. Je me souviens, c'était au Creusot, tout à fait au début du TGV. Il y avait un petit gosse à côté, il s'appelle. Et là, on va arriver, je les impressionnant. Et le petit gosse dit, mais maman, qu'est-ce que c'est ? Là, la mère répond, t'es juif. Ouais, ça ne satisfait rien. Et le langage est tout. C'est une été noire, une vraie interrogation. On est dans cette petite interrogation. Là, on lui dit, mais regarde. Tu vois, c'est extraordinaire, ça. C'est des trains qui vont très vite. C'est pour ça qu'on dit TGV. TGV pour l'enfant, ça ne dit pas grand chose. Et l'enfant a repris, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que TGV, maman ? Et la mère était obligée d'être inexplicable, de donner un langage qui était tout proche de l'enfant. L'enfant qui s'émerveille devant quelque chose de nouveau. Et pour nous, la réalité est toujours claire. Pour le poète, c'est comme ça, et pour le philosophe, c'est comme ça. Dans chaque rencontre, il y a quelque chose d'unique. Parce que chaque réalité qui existe est unique. Elle est porteuse de quelque chose qui est unique. Et vous voyez bien, je ne commence pas par le je suis. Et je commence par ceci. Alors là, il y a un très bon développement qui serait très intéressant à faire. Parce qu'à partir de Descartes, on a commencé le je suis. C'est pour ça que certains disent la philosophie européenne se divise en deux grandes périodes. La philosophie du réalisme, de la réalité autre que moi, et la philosophie de l'esprit. L'esprit qui interroge, l'esprit qui connaît. En réalité, il n'y a pas deux métaphysiques, on verra au terme. Il n'y en a qu'une. mais le prolongement de la métaphysique doit aller du ceci à je suis. L'année prochaine, ce sera le je suis. Cette année-ci, c'est le ceci. C'est pas la même chose pour passer de l'autre à je suis. Parce que dans le je est tellement fort que tout de suite, je vois la diversité entre le champ et moi. Je m'intéresse plus au champ. Je m'intéresse qu'à mon jeu, qu'à mon moi, dans tout développement de la psychologie. Alors que si je commence par ceci et, ah j'ai dit, ah, c'est curieux, il y a dans l'être quelque chose de commun entre moi et ce petit champ. Je mets en pleine lumière l'affirmation de ceci.
La philosophie du langage devient une philosophie bien
esistevamo, se il montagna esistevamo, sulla essere in Alfonso. C'est pas mon langage qui l'a fait ça. Tandis que c'est un peu incroyable le langage qui l'a fait ça. Je viens parler, tout va bien. Je peux très bien parler, et que rien n'est bien. Ça arrive très souvent. Parce que justement, mon langage est la réalité, c'est pour ça que c'est la réalité que j'entends. Et dans le jugement d'existence, c'est bien la réalité. Ils vont bien montrer que ceci m'intéresse plus que ceci. L'être qui est présent à cette réalité et qui fait que cette réalité existe, qu'elle est devant moi. Et c'est la chose vraie pour moi. J'existe. Mon jeu, mon moi, il est intéressant parce qu'il existe. Il est unique parce qu'il existe. Autrement, il serait uniquement dans le cœur de ceux qui m'aiment et dans l'intelligence de ceux qui vont savoir. Tandis que là, il existe pour tous. J'existe pour tous les existants. Dans mon existence, je suis donné à tous. Il y a donc l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Je passe du présent, ceci est, à l'infinitif. Du langage, c'est intéressant de me dire, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez que l'être, c'est un verbe. Et le ceci, c'est un nom. Pierre-Jacques et Jean. C'est curieux, ça. Et pour saisir ce verbe en lui-même, je prends la forme de l'infinitif, qui a cette propriété très particulière de pouvoir saisonner. Le présent disant pas, ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être? Il s'isole. Et je peux le regarder pour lui-même. Je peux essayer de comprendre. Mais l'être s'impose à moi comme quelque chose qui a sa propre signification. Et c'est ça que j'aime. Qu'est-ce que c'est que l'être? Comment saisir ce qu'il y a de premier dans l'être? L'interrogation, la première interrogation, c'est l'interrogation de qu'est-ce que la signification des choses. Saisir ce qu'il y a de premier dans leur détermination, dans leur signification. Qu'est-ce que c'est que l'être? Cette interrogation qui est l'entrée en métaphysique. Pourquoi ça m'a dit ici? Qu'est-ce que c'est que l'être? Comme c'est. Mais l'interrogation est radicale. Il n'y a pas d'interrogation aussi radicale et aussi primitive que celle-là. C'est ce que Merleau-Ponty dit à la fin de ses jours. Il est mon jeune. Il a dit, changer de position, parce qu'il y a un premier Merleau-Ponty, un second Merleau-Ponty. En disant, ce qui m'intéresse, c'est l'être sauvage. C'est beau comme expression. Parce que d'habitude, tu es toujours du conventionnel. Ce que je cherche, c'est primitif. C'est ce qui est le premier. Ce qui n'a pas été touché par l'homme. Ce qui est, qui n'a pas été touché par l'homme. L'homme ne touche pas l'être. Ça, il faut bien se rappeler ça. La science ne touche pas l'être. Elle touche les relations. Toutes les formes, mais toujours pas l'être. L'être, c'est seulement l'intelligence dans toute sa limpidité d'intelligence qui est déterminée par l'être et qui pose cette question, qu'est-ce que c'est que l'être? Comment découvrir ce qu'il y a de tout à fait premier dans l'être? Son principe. Qu'est-ce qui est premier dans l'être? Toutes les réalités que je vois sont multiples dans leur diversité. Et si je fais l'inventaire de ce qu'est l'homme, je dirais que c'est une complexité invraisemblable. L'homme étant la réalité la plus parfaite que je puisse connaître, que je puisse expérimenter, je vois aussi que c'est la réalité la plus complexe. Ce que Teilhard Chardin avait été très ému par cette complexité. En voyant la complexité, et ça ne vient pas que lui, les néo-catholiciens. Donc après Platon, au deuxième siècle après Jésus-Christ, les grands néo-catholiciens, Platon, voyaient l'homme comme l'horizon du monde physique et le lien avec le monde des esprits. Et ils remarquaient ceci, que parmi tous les êtres vivants, l'homme est l'être le plus complexe. La science confirme ça. La complexité extraordinaire du cerveau. La complexité extraordinaire de ma vie végétative. D'habitude, je m'en aperçois pas. Il suffit d'avoir mal à l'estomac pour s'en apercevoir. Qu'on a un estomac nous-mêmes. Qu'on a un foie. Et ainsi de suite. Et puis la complexité de l'intouffé, la complexité de tous les organes, c'était fou. Et là, ce savant biologiste qui me disait, chaque fois que je vois un homme, je dis, oh, quelle belle cathédrale de molécules. Cette cathédrale de molécules. Quelle complexité. Il y a une grande porte. Il y a il y a possibilité de capter toutes les vies. Et puis il y a le droit. Il y a des gens qui avancent comme des cathédrales. Il y a des gens qui avancent pas tout à fait comme des cathédrales. Parce qu'ils dansent, c'est pas la cathédrale qui danse. C'est vrai, le corps est complexe. Le corps manifeste la complexité de l'homme. Et en même temps l'unité. Et tout ça existe, c'est l'être. Alors qu'est-ce qui est le premier? Faites l'inventaire de l'homme. Je ne veux pas le faire du point. Et ça a été fait du point de vue philosophique et du côté de l'interrogation, de la détermination. C'est ce qu'on appelle d'une manière classique les 10 prédicaments, les 10 catégories d'Aristote. Je vais vous les nommer, vous verrez très bien que c'est beaucoup meilleur qu'une carte d'identité. On n'est pas encore venu à une carte d'identité comme des 10 catégories d'Aristote. C'est pas si mal. Chaque fois que je dois remplir une fiche, je ne pas dans un pays qui n'est pas le nôtre. Je dis, tiens, c'est curieux cette catégorie, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, essayez de comprendre ce que cette catégorie, les renseignements qui demandent, qu'est-ce que ça donne? Rien. C'est pas penser philosophiquement. C'est uniquement penser économiquement. C'est ce qui intéresse le plus, savoir si vous apportez des dollars, vous apportez des dollars, si vous êtes sous une pression. Ça n'intéressait pas du tout Aristote. Dans les catégories d'Aristote, Aristote ne se pose pas la question, avez-vous de l'argent? Non, parce que avez-vous de l'argent, c'est très extrinsèque à l'exister. Ça allège l'exister si on a peu d'argent. Tandis que beaucoup d'argent, ça fait un poids extraordinaire et toute notre attention est vis-à-vis de cet argent parce qu'il y a des voleurs. Tandis que d'avoir rien à voler, rien du tout à voler. On est d'une liberté étonnante, alors notre existence prend un poids, vous savez. C'est très curieux. La contre-poids de l'argent. Et il y a le poids de l'existence. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant par ça. En raison, on s'intéresse à l'argent. Le point de vue métaphysique diminue. Vous voyez, c'est la question des valeurs. Les banquiers savent très bien ça. C'est les changements. Bien, l'être a perdu énormément de valeur. Depuis 100 ans. C'est peut-être ce qui caractérise notre siècle, à tel di lui diretto, non dire da poi se potrà, no, lui è l'augmentation du capital, l'augmentation d'argent. C'est du curieux, ces choses-là. Et ça a dû comprendre beaucoup de choses quand on réfléchit un tout petit peu à l'examen. C'est un examen philosophique. Est-ce que je pense à mon être? Qu'est-ce que c'est que mon être? Alors Aristote, à la suite de Platon, donne les 10 catégories. Je sais que certains disent que ce n'est pas d'Aristote, que c'est un disciple d'Aristote. Ça m'est égal, je sais très bien ce que c'est. Quand on enseigne et qu'on a un étudiant intelligent, tout ce que cet intelligent, tout ce que cet étudiant intelligent dit, on l'a capable pour soi. Ce que les disciples prolongent le maître, donc c'est encore le maître. Donc dire que c'est un disciple d'Aristote, c'est pas encore Aristote. Alors les 10 pratiquements. Sous les normes. Premier pratiquement, ou plus exactement, ce qui est au-delà du pratiquement, c'est Pierre, Jacques, Jean, l'individu, le sujet, qu'il appelle la substance première. Le mot substance vient de Platon, j'y reviendrai tout à l'heure. Puis, la quantité, oh oui, ça manifeste l'être. La qualité, toutes les qualités. Les qualités sensibles, le visage, le regard, l'ouïe. Puis, la capacité d'agir. La manière dont on est, on dirait aujourd'hui, intégré dans un tout. Nouveau prêtre est intégré. Est-ce que la définition du prêtre, c'est pour être intégré? Pour Aristote, c'est une capacité qualitative, une adaptation. S'adapter, c'est très bien, mais si on n'a rien, on n'a pas besoin de s'adapter. C'est là beaucoup de choses, mais il faut s'adapter, faire un contrôle. Et si on n'a rien, alors que c'est devenu pour nous une catégorie très importante. Être intégré dans un tout. Et pour certains, je ne pensais pas à ce point-là. C'est la qualité dominante. Est-il intégré? Ça montre combien notre réflexion est à un niveau bas de tous les partis. C'est très bien pour la part, mais pour les individus, ça va moins bien. C'est très difficile à traduire. En latin, habitus. visage de l'homme et des choses. Voyez, vous portez un habit. Quand il y a un tas d'habits les uns sur les autres, si c'est un vieil habit qu'on porte depuis longtemps, on dirait que c'est touché. L'habit à la fois nous modifie et surtout nous modifie l'habit. Un habit qui a été porté longtemps, il est usé. Et l'usure qualifie l'habit. On aime un vieil habit. Pas toujours dans les jeunes, parce qu'ils aiment les choses jeunes, mais quelqu'un qui prend de l'âge. Dans cet habit que je porte depuis des temps, j'aime pas toujours. C'est un vieil ami, quoi. Il y a une relation entre l'habit et nous. La pipe. On la fait ça, la pipe. On la fait à sa manière. Donc on a mis les pipes. Et ainsi de suite, les outils. Les outils. L'outil face, là, ça se voit surtout chez des menuisiers. Chez les hommes qui ont un art artisanal, l'outil, ça joue un rôle énorme. Vous voyez, chez le sculpteur. Et puis, alors, dans la danse, du corps, le point de vue de l'habileté du corps, on fait du corps ce qu'on veut, on l'habite et on le modifie par le fait. Et ainsi de suite, vous voyez, il y a là une catégorie très particulière. Toutes ces catégories, elles sont très intéressantes. Il faudrait les développer aujourd'hui. Parce que c'est peut-être ce qu'on connaît le mieux, ce qui nous montre que la philosophie n'est pas lointaine de l'expérience. Toutes ces catégories expriment une certaine manière d'être. Si je suis très intelligent, j'existe dans mon intelligence. Si j'ai une très grande capacité d'aimer, j'existe dans cette capacité d'aimer. Si j'ai du poids, j'existe dans ma grandeur, dans mon poids, ça peut jouer. Si au contraire je suis très frêle, vous avez la spiritualité, c'est Pierre est un homme. Pierre Pestin. c'era del grite, c'era di Nolesso, del Persalamono, c'era di Cavalli Ponte, su Ponte, e Nomeno, sospetto governo, ma è su Ponte, è il mio. C'era di Rassi, ces catégories ne peut satisfaire le philosophe, le métaphysicien. Pourquoi? Parce qu'il cherche ce qui est premier dans l'être. Or, la qualité, la quantité, la relation, tout ça, c'est pas premier. C'est relatif à quelqu'un d'autre. C'est relatif à Pierre. Ça qualifie Pierre. Ça le mortifie, ça lui donne de l'espace, et ainsi de suite. Alors, ce qui est premier dans l'être n'est pas dans les catégories. Et c'est vrai, parce que les deux premières catégories, substance première, substance seconde, substance première pierre, substance seconde homme, c'est curieux, mais ni homme, ni Pierre ne me dit ce qui est premier dans l'être de Pierre. Alors, faisons attention, l'induction philosophique a été ensuite reprise par la science, qui n'est plus la même induction. L'induction baconienne et l'induction aristotélicienne sont le même. Arrêtez d'envoyer le premier mot, c'est l'autre qui aurait dû envoyer un autre mot. Parce qu'on n'envoie pas un mot qui a une signification particulière pour lui donner une autre signification. Ça, c'est créer des équivoques, et des équivoques terribles. Marquez, il faut bien connaître que c'est la même chose pour le mot épistémé. Science. La science pour Platon, c'est la philosophie. Pour Aristote, c'est la philosophie. On reconnaît qu'il y a la philosophie et les mathématiques. Bien, par exemple, le mot science, pour toute connaissance certaine, dont on sait si c'est une certaine relation de cause à effet, d'antécédent à conséquent. Connaissance scientifique. Le mot connaissance scientifique est terrible parce qu'il est terriblement équivoque. Alors, les pagogues, l'induction chez Aristote, la première induction, c'est le passage de toutes ces déterminations que je vois, que je constate, à leur racine, à leur source. Et donc, je prends les deux du plus fondamental. L'individu et puis homme. Autre chose est l'exister de Pierre dans son individualité. Autre chose est la nature de Pierre qui est un homme. Homme se multiplie, tous les hommes de même espèce. L'individu est seul. Ah, alors, qu'est-ce qui est à la source des deux? Ce sera justement ce principe qu'on appellera substance, qui sera source de toutes les déterminations et source non seulement de la détermination mais de l'être, donc même de l'exister, et on l'appellera substance. Et ce mot vient de Platon. Je crois qu'avant on employait le mot nature, physis. Platon emploie le mot ousia. Et comme Platon est très proche des traditions religieuses, Platon dans le Cratyle essaie de voir quelle est la signification de grazia a Estia, la déesse qui pleuveur par la maison. Mais c'est un mot. Heidegger, quand il parle de la substance, il dit c'est ce qui demeure. Il rejoint Platon. C'est notre Platon moderne. Il rejoint Platon. Il dit la substance, c'est ce qui demeure. C'est ce qui donne la qualité d'une présence. Il y a des gens qui vous sont présents, il y en a qui ne sont pas. D'où ça vient? Ça ne vient pas de leur regard, de leur regard à elle. Mais ce n'est pas ça, c'est eux. Il y a quelqu'un qui vit, il y a quelqu'un qui est. Il y a une qualité de présence. Vous voyez, Ousia, c'est la source de toutes les déterminations. Et je la pose en cherchant qu'est-ce qui est premier dans l'être. Je vois toutes les déterminations secondes relatives. Ce qui est premier n'est pas seconde. C'est bien évident. Il ne peut pas être seconde. Donc, au-delà du second, au-delà de la diade, où les deux existent, pierre et homme, il y a quelque chose. Et pour mieux comprendre cela, je me dis, mais quelle est la substance pour moi? C'est mon âme. Mais c'est plus facile de saisir l'âme que la substance. Mais justement, ça aide, ayant découvert ce premier dans l'ordre de l'être, dire qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être en moi? C'est mon âme. Et je vois que l'âme, c'est ma substance. Source de toutes les déterminations qui sont en moi. Ah, je sais très bien qu'il y a un problème très délicat, c'est les rapports de l'âme et du corps. Au plan métaphysique, c'est plus facile. Et on verra comment, je ne vais pas le faire maintenant, et on verra comment, au plan métaphysique, c'est plus facile de saisir ce qui prend qui est dans l'ordre de l'être, au-delà de la matière. C'est la source de toutes les déterminations. Or, la matière, comme telle, n'est pas déterminée. Elle est source de toutes les indéterminations. La substance est donc ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Je ne la vois pas. L'intelligence a saisi à partir de l'intuition. Pour saisir à partir de toutes ces diversités, des modèles d'éthènes, qu'est-ce qu'il manque? Aucune fenêtre. Donc, c'est quelque chose de foncier. Ce qui demeure dans la réalité. Ce qui rayonne dans la réalité. Ce qui permet à cette réalité d'être ceci. C'est donc ce qui détermine l'être dans ce qu'il a de plus foncier. La substance. Et chaque être qui a une certaine autonomie dans son être a nécessairement une source de son être, qui est source de toutes ses déterminations, qui est source de ce qu'il y a de plus radical sans exister. Je vous laisse devant cette induction. Puisque c'est l'harmonie de la source.